8h20 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous sommes en présence de deux Cannes pour le prix d'un. Sylvain Kahn, qui est géographe, professeur à Sciences Po, qui n'a aucun lien de parenté, je le précise, avec Jean-François Kahn, journaliste, qui publie « Réflexions sur mon échec », ce sont des entretiens avec Françoise Siri, et l'autre géographe, Béatrice Gibelin, qui est directrice de la revue Hérodote, et qui a notamment publié « Les conflits dans le monde » aux éditions d'Uno. Jean-François Kahn, vous écoutiez le reportage de la rédaction, celui-ci concernait la critique, l'autocritique des journalistes, on les dit coupés du pays réel. Qu'en pensez-vous ?
Ben vous savez, ça illustre justement le thème de l'échec dont je parle. Lorsqu'il y a eu les résultats des élections, beaucoup de journalistes se sont interrogés et se sont dit, mais on vivait dans une bulle. Dans une bulle, on n'entendait pas notre monde, notre univers. On est entre nous, donc de toute façon, on pense à peu près pareil. On considère que c'est, on ne peut pas penser différemment puisque entre nous, on pense à peu près pareil. Enfin, bien. Et après cette élection, j'ai reçu plein de coups de téléphone, de journaux, de télévision, suisse, belge, italienne, etc. Pourquoi j'avais complètement oublié, c'est que j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelait Les Bullocrates. Et il y a 10 ans. J'étais très frappé là-dessus et j'ai analysé ce phénomène. Faisons attention, nous vivons dans une bulle. Il y a une espèce de technostructure. Il y a un monde, alors qu'on dit un peu, j'aime pas beaucoup le mot, mais d'élite, si vous voulez, où il y a en effet des journalistes, des hauts fonctionnaires, des grands capitalistes, des intellectuels.
Et alors dans ce monde-là,
qui
on
vivent
pense
entre
tous
eux.
De la même façon.
Hein?
Vous pensez de la même façon que.
Non,
vos
mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors, ils ont dit, vous avez écrit un livre là-dessus, ils m'ont interviewé pour dire qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais en France, il n'y a personne qui m'a demandé. Ça illustre.
Mais qu'est-ce que
thème.
Vous faites ici, alors?
Non, mais à ce moment-là. Ça illustre, c'est-à-dire que j'ai découvert, alors que j'avais oublié, que ce que j'avais essayé d'expliquer avait une résonance en Italie, en Belgique, en Suisse, etc. Mais alors en France, pas du tout. Donc c'est l'illustration de l'échec dont je vous parle. Mais donc j'avais fait cette... Je crois que c'est quelque chose de très important. On a vécu, il y a un monde qui vit complètement déconnecté
Donc vous maintenez votre diagnostic.
Béatrice Gibelin, est-ce que pour vous... Ce qui n'empêche pas qu'on ait les mêmes bulles, en Italie, qu'on ait les mêmes bulles en Suisse, non, qu'on ait les
Amérique.
Mêmes bulles en Amérique.
Puisque
qu'on
c'est est... là voilà. qu'ils en ont parlé.
Alors, on voit parfois mieux ce qui peut être écrit ailleurs et qu'on va saisir que ce qui est forcément écrit par, chez soi. Avec en plus, c'est vrai, le petit entre-soi d'un monde de journalistes que vous avez bousculé à plus d'une fois, c'est incontestable, et de façon parfois un peu ferme, et que du coup, on va quand même pas vous faire plaisir, quoi. Il y a quelque chose de ça.
Mais est-ce que vous avez l'impression, Béatrice Gibelin, que la France, notamment, a raison de considérer qu'il existe une élite coupée du reste de la population?
Non, oui, on peut penser effectivement qu'on a eu une élite coupée du reste de la population, mais c'est aussi une représentation qui est aussi un peu simpliste, si vous voulez. C'est tout aussi simpliste de
Est-ce qu'au 19e siècle, par exemple, les choses étaient différentes? Est-ce qu'au début du 20e?
Je pense que l'élite au début au 19e était largement éloignée du reste de la population. D'abord, vous aviez déjà la moitié de la population qui votait pas, donc on se moquait exactement des femmes, donc on se moquait complètement de ce qu'elles pouvaient dire ou ce qu'elles pouvaient penser. C'était déjà ça qu'on avait de moins à s'occuper, c'est pas plus mal. Et puis, vous aviez une population qui était, on le sait, beaucoup plus encadrée par l'Église, par le début des syndicats, voilà. Et donc, si vous voulez, elle était prédéterminée un peu dans son vote aussi.
Une réaction de Jérémy Robin, l'un des géographes qui assure ces matins des géographes.
Oui, non, très rapidement, moi je voudrais juste pas faire du journaliste bashing pour une fois, parce que je pense que la presse est le secteur sans doute parmi ces élites dont vous parlez, où on voit le plus monter une nouvelle génération qui vient des quartiers populaires, en particulier autour du Bondy Blog, mais toute une génération de nouveaux journalistes qui ont un rapport très différent aux hommes politiques ou aux femmes politiques, enfin aux milieux politiques, et qui se définissent comme des journalistes de terrain, un peu plus militants, éventuellement un peu plus engagés. Et donc je pense que c'est vraiment l'espace social où il y a le plus de dynamisme sur ces questions-là et que la presse a bien réagi à ça, à mon sens.
Peut-être avec aussi une formation des journalistes qui passent par les mêmes écoles, qui sont quand même sur le même modèle. Il y a aussi un formatage dans la formation des journalistes, incontestablement. Comme il y a un formatage pour la classe politique, la diversité des itinéraires qui amènent au journalisme, elle est beaucoup moins grande aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 20 ans.
Oui, mais en même temps...
Sylvain Cannes.
Moi, je crois qu'il faut... J'irais plutôt dans le sens de ce que disait Jérémy Robin, parce que d'abord, le journalisme est effectivement très divers. Il s'est énormément diversifié dans ses formes, dans ses sources, dans ses modes, disons, enfin, de lecture, entre guillemets, d'accès à l'information, en particulier grâce à Internet, au pure player, au son, à la vidéo. Et moi, je suis au contraire frappé par le fait, me semble-t-il, qu'on n'a jamais eu autant de reportages. C'est-à-dire que pendant longtemps, le reportage, le documentaire, c'était à la radio, c'était à la télé. Depuis quand même quelques années, soit à travers un certain nombre de revues, y compris France Culture Papier, mais 21 ou d'autres. Et maintenant, dans les journaux, y compris dans les quotidiens, on a des journalistes, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, qu'ils viennent de quartiers populaires ou de quartiers plus huppés, peu importe, qui vont sur le terrain, je sais pas, chez nous par exemple, à Radio France, ce que fait Omar Waman derrière la ligne de front à Alep est absolument extraordinaire. Donc moi j'ai au contraire l'impression que le journalisme aujourd'hui peut donner le sentiment d'une pensée plus conforme et plus univoque, mais en vérité c'est complètement faux, parce que on peut lire des choses extraordinaires ou écouter des choses extraordinaires et très diversifiées, et sur tout un tas de choses, dans tout un tas de coins de France qu'on connaît pas, et dans tout un tas de coins du monde qu'on connaît pas.
Jean-François Cannes, quand on reprend l'histoire...
Je voulais répondre à ça deux secondes quand même, dire... les gens... Je peux comparer, parce que j'ai connu le journaliste il y a longtemps aussi, hein, j'ai commencé il y a très longtemps. Aujourd'hui, les journalistes sont sans doute plus libres, plus indépendants qu'ils n'étaient il y a 30 ou 40 ans. Ils sont plus cultivés qu'ils n'étaient il y a 30 ou 40 ans. Ils sont plus curieux qu'ils n'étaient il y a 20 ou 30 ans. Vous imaginez pas ce que ça pouvait être il y a 30 ou 40 ans. Mais en même temps... il y a 30 ou 40 ans, la diversité au sommet se reflétait dans la diversité journalistique. À un point même quelquefois caricatural, c'est-à-dire selon certains journaux, on ne se rencontrait pas, etc.
Mais
aujourd'hui, il y a une tendance, en toute indépendance, contrairement à ce que certains disent, en toute liberté, à penser quand même à... la même chose. Surtout en politique étrangère, mais pas qu'en politique étrangère. À penser, parce que, vous l'avez dit d'ailleurs, les mêmes écoles, ils viennent du même milieu, ils vivent dans la même ville, ils ont les mêmes références, ils ont eu la même évolution politique, ils ont à penser des choses extrêmement, sinon la même chose, extrêmement semblables. Or, le problème, parce que vous pourrez me dire, bah d'accord, ils pensent, protègent tous pareil, mais parce qu'ils pensent bien, parce que c'est comme ça qu'il faut penser, parce que c'est la vérité.
Non, mais je pense
le
que là,
problème,
c'est, parce que
c'est que l'évolution des opinions politiques chez les gens à la base, c'est de penser complètement différemment. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la pensée journalistique et de la pensée des gens qui est complètement contradictoire. Non. Les gens, ça ne veut pas dire que c'est les journalistes qui ont tort et les gens qui ont raison, mais la majorité de la population tend à penser d'une façon de plus en plus différenciée de ce que pensent assez communément les journalistes.
Béatrice Gibelin.
Non, moi je pense que c'est là aussi, je trouve que c'est une présentation caricaturale. Vous pouvez pas dire d'un côté les journalistes et puis de l'autre côté les gens. C'est pas comme ça que les choses se passent. D'abord parce que tous les gens ne pensent pas exactement la même chose. On a pu et on peut encore ignorer une partie de ce que pensent des citoyens français, en particulier le temps qu'il a fallu pour qu'on reconnaisse une adhésion et non pas seulement un vote protestataire aux idées du Front National qui a pu monter et a atteint 20, peut-être 24, 25% des voix. Mais c'est pas tous les gens. Et on n'est pas forcément dans cette opposition-là. Je pense que à nous aussi de ne pas trop caricaturer les choses.
Sur la France, la question, Jean-François Cannes.
Qui disait les journalistes on posait la question sur
non, mais c'est vous
les
qui,
journalistes.
C'est vous qui dites les gens.
Sur la France, est-ce que vous pensez, Jean-François Cannes, que le pays tel qu'il est aujourd'hui est plus divisé qu'il ne l'a été auparavant? A-t-on véritablement affaire à une mosaïque de populations, comme c'est parfois décrit, comme cela a été tout à l'heure, entre la police et la population? Ou bien s'agit-il en quelque sorte de raccourcis peut-être un peu faciles?
Le pays a... il est arrivé que le pays soit beaucoup plus divisé qu'il n'était aujourd'hui. Je pense que dans les années... Enfin, au moins autant, sinon plus, dans les années 30, à la fin des années 30, était extrêmement divisé. Pendant la guerre d'Algérie, il était extrêmement divisé. Et même au moment de la libération, il était extrêmement divisé. En revanche, il y a des divisions nouvelles, de caractère et de type complètement nouvelles. Voilà.
Lesquelles, puisque vous avez lutté toute votre vie contre un partage qui vous paraissait être un partage factice entre la droite et la gauche, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que cette division est aussi sensible, perceptible qu'elle l'était auparavant, Jean-François Kahn ?
Non, il y a des divisions, mais qui ne recoupent pas cette division-là. C'est ce qu'on essaye de dire. Il y a des révolutions. Aujourd'hui, il y a des divisions sur une base culturelle, sur une base religieuse, sur une base même éthico-religieuse, beaucoup plus forte qu'elle n'était avant. Et c'est vrai qu'il y a un décalage. Ça recoupe ce que j'essayais de dire avant. Il y a un décalage formidable entre la division telle qu'elle est vécue politiquement au Parlement, par exemple, ou même dans la presse, et la division telle qu'elle est vécue, par les gens, quand même, par une majorité des gens.
Béatrice Gibelin, justement, tout à l'heure, vous évoquiez la division territoriale, le fait que les voyages peut-être à l'intérieur de la France n'étaient pas aussi importants qu'on le disait. On voit, par exemple, dans la géographie physique, dans les sciences humaines, le portrait qu'elles ont dressé de la France dans les années 50, 60, 70. On voit, par exemple, que le territoire, je pense aux enquêtes d'Edgar Morin, par exemple, le territoire était beaucoup plus morcelé, qu'il y avait, par exemple, une coupure nette entre les campagnes et les villes, il y avait une coupure nette entre les agriculteurs et les services. Tout ceci est aujourd'hui complètement estompé.
Il est complètement estompé, mais il y a quand même des modes de vie et des choix qui sont faits qui montrent que ce n'est pas totalement uniformisé sur
l'ensemble donnez-nous des exemples.
Du territoire. Bon, eh bien, le fait de décider, si on est, on va dire, un intellectuel ou un artiste, d'aller vivre dans le Gers, puisque Sylvain évoquait le Gers. Si on est avec une bonne connexion à Internet, on peut s'éloigner et on a l'impression qu'on choisit un mode de vie au sein de la nature, au contact des vrais gens, et qu'on s'éloigne... et qu'on va s'éloigner de Paris. Si on vit dans la grande périphérie, ce que un géographe traduit comme étant le réceptacle de toute une classe moyenne abandonnée et frustrée, ce qui n'est pas tout à fait mon point de vue, on est à la campagne en vivant complètement autre chose. Bon, et on n'a pas du tout une même homogénéité. Et puis, si je vis au cœur de la métropole parisienne ou même de la métropole lyonnaise, j'aurai un mode de vie qui sera radicalement différent. Donc je crois qu'il faut faire attention sur l'idée, tout ça, tout est pareil et au fond, il n'y a plus de différence. Je pense que non.
Sylvain Kahn, votre réaction à ce sujet ?
Oui, bien sûr, il y a des différences. Effectivement, il y a des différences entre vivre à la campagne, comme on peut dire, ou vivre à la ville. Mais ces différences sont devenues, me semble-t-il, beaucoup plus des nuances que par rapport à l'époque dont vous parliez, Guillaume. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui balaye tout sur son passage, c'est quand même le phénomène d'urbanisation ou de métropolisation. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple que donnait Béatrice Gibelin, même quand on vit à la campagne aujourd'hui, on a un mode de vie urbain, c'est-à-dire on n'a pas le même paysage ou le même cadre de vie, mais on a largement un mode de vie urbain. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la population qui travaille dans le secteur de l'agriculture en France, c'est 0,7% de la population active. Ce qui veut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui les néo-urbains ou les rurbains, c'est-à-dire les gens qui quittent la ville pour revenir à la campagne, enfin, d'ailleurs souvent c'est pas les mêmes, sont en fait des gens qui vont chercher un cadre de vie qui correspond mieux à leurs aspirations, tout en conservant le mode de vie urbain. Donc là-dessus j'apporterai une nuance. Il me semble que la grosse différence aujourd'hui, c'est dans les inégalités. Parce que on a beau tous, ou dans l'ensemble, tous vivre selon un mode de vie urbain ou dans l'urbanisation, le fait est qu'il y a des différences très très grandes en termes de prospérité, en termes de niveau de vie et surtout en termes d'accès à la mobilité, d'accès à la ressource géographique pour le coup, c'est-à-dire que Béatrice Gibelin évoquait le fait qu'on puisse vivre dans des très grands organismes urbains comme Paris, comme on l'a souvent dit à l'époque des émeutes et du très grave accident qui avait eu lieu à Clichy-sous-Bois, c'était en 2005, si je me souviens bien, pour aller de Clichy-sous-Bois aux Halles, c'est-à-dire au cœur de Paris, il faut 1h30, alors que pour aller du centre de Lille au centre de Paris, il faut 1 heure maximum. Et il y a une très grande inégalité en termes d'injustice spatiale, et de ce point de vue-là, il me semble que la France est sans doute un des pays les pires en Europe.
Jean-François Kahn.
Je crois qu'il y a un phénomène, comme on disait avant, dialectique, comme on aurait dit dans le temps, où il y a une accentuation formidable des ressemblances et en même temps une accentuation extraordinaire des différences. C'est-à-dire, il y a une interpénétration de l'accentuation des différences. Et c'est-à-dire, quand vous disiez sur les gens, je pense qu'il n'y a jamais eu aussi peu les gens, et vous avez totalement raison, et il n'y a jamais eu autant les gens. Les deux sont vrais. Et il y a une parcellisation quelquefois dans l'uniformité. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très particulier de cette situation qu'on vit. Je vais faire une remarque à propos des journalistes quand même, ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple de cette conformité. Quand il y a eu l'intervention française en Libye, il y a eu 80-90% des médias étaient favorables. Il faut dire que la droite et la gauche avaient soutenu. J'ai essayé à ce moment-là d'intervenir en disant, écoutez, est-ce qu'un autre son de cloche peut être exprimé pour dire pourquoi je considère que c'est dangereux, que ça risque d'avoir des conséquences calamiteuses, etc.
Et vous n'avez pas eu tort.
Je n'ai pas pu. Il faut quand même le dire. Je n'ai pas pu exprimer sur l'intervention en Libye une autre son de cloche que celui qui était le son de cloche à 80% des médias.
Nous continuons à décrire la France non plus. Il y a quand même une grande majorité de médias de droite. Donc, comme Sarkozy avait décidé qu'on y allait, ils allaient quand même pas tenir un discours opposé.
Béatrice Gibelin, l'un des autres termes qui a souvent été employé ces derniers mois pour décrire la spécificité de la géographie française, c'est le terme de périurbain. C'est une nouveauté, le périurbain. Est-ce que pour vous, ça correspond effectivement à une réalité géographique et sociale? Est-ce que ça explique, puisque vous avez notamment beaucoup travaillé là-dessus, est-ce que cela explique pour partie le vote Front National?
Pour partie, pour une petite partie. Moi, je m'intéresse au vote du Front National depuis 1986. Le premier papier que j'ai fait, il a été publié en 86 ou 87. Et à l'époque, je dois dire que, comme je disais que c'était un phénomène important et qu'il fallait pas prendre ça à la légère, qu'on ne me prenait pas vraiment au sérieux, je vais même aller jusqu'à un certain mépris de la part d'un certain nombre de politistes. Bien, parce que je crois, peut-être parce que je suis originaire du Nord et que j'ai beaucoup travaillé sur des classes ouvrières et populaires, sur un sous-prolétariat français, et je sentais ce sentiment d'abandon et de violence, qui n'était pas sur une question forcément d'immigration à ce moment-là, même si ça a pris une place importante. Alors, le périurbain, ça existe en géographie depuis bien longtemps. On parle de périurbain au moins depuis 40 ans, voire 50, donc c'est vraiment pas... ce qui serait plus nouveau, ce serait le rurbain, ce que définissait Sylvain Kahn en disant, c'est vivre à la campagne avec un mode de vie urbain. Voilà, donc... je sais qu'il y a tout un discours qui est dire qu'au fond, plus on s'éloigne du centre, plus on va avoir un vote pour le Front National, pour des raisons...
Ça, c'est Jacques Lévy.
Oui, c'est Jacques Lévy qui dit ça. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que quand on regarde très précisément les votes, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut regarder. Et Dieu sait que Lévy sait faire des cartes.
Eh oui.
Mais si on regarde très précisément les choses...
Bah, c'est surtout
moi,
Christophe Guidoui qui a défendu...
Mais parce
qui ne fait pas de cartes, au passage.
Non, et puis qui aime les... Quand on fait des choses aussi tranchées que ça, ça attire les médias. Le crépuscule des gens d'en haut, ah ça c'est bon, voilà, on va attirer. Si vous êtes un peu dans la complexité, la nuance, c'est difficile. Mais pour vous dire que je ne suis pas d'accord, c'est qu'à Lille, au centre de Lille, vous avez un vote Front National qui est extrêmement important, et puis vous pouvez avoir à 15-20 km de Lille un vote qui ne le soit pas.
Un mot de conclusion, Sylvain.
Un mot de conclusion, par rapport à toutes ces différences et à ces éventuelles divisions, moi il me semble qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire en France, c'est un vrai scrutin à la proportionnelle. On n'en peut plus du scrutin majoritaire uninominal à deux tours, et il faut que tout le monde puisse se sentir représenté. Voilà.
Un mot de faire cette avancée, Jean-François Kahn.
Non, ça fait 40 ans que je me bats là-dessus pour dire qu'il faut absolument ouvrir
nous
un
sommes
peu conventionnel.
Vous voyez, non, vous n'avez pas échoué, Jean-François Kahn.
Aujourd'hui, je pense que la majorité des gens pensent ça, mais alors pour le coup, l'establishment est contre.
Souvenez-vous,
à verrouiller.
Quand la gauche en 86 a mis un peu de proportionnel et qu'il y a eu 36 députés du Front National à l'Assemblée, tout le monde est tombé à bras raccourcis.
On va en avoir 100 au scrutin majoritaire.
Merci à tous les trois.
Mais il valait mieux qu'il y ait 36 députés au Front National.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il ne jamais mieux qu'il y en ait.
Jean-François Kahn, merci beaucoup. Voyez, vous n'avez pas complètement échoué, même si vous venez de publier Réflexions sur mon échec, vos entretiens avec Françoise Siri.